2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Le temps des copains.
Belle, belle, belle comme le jour.
L'émission des années 60. Hey, hey. Sur RVE. RVE. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ce sont près de 15 000 personnes qui se sont retrouvées dans les rues de Paris hier. Tous ont répondu à l'appel du comité Adama pour dénoncer les violences policières. Quelques heurts ont éclaté à Paris en fin de journée, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour disperser tout le monde. Il y a eu aussi des rassemblements à Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore du côté de Bordeaux. La préfecture de police de Paris a aussi saisi la justice après des insultes antisémites proférées par des manifestants en direction de militants de génération identitaire. Ça s'est passé à Paris, le collectif avait déployé une banderole évoquant le racisme anti-blanc sur le toit d'un immeuble juste devant les manifestants. Tous les yeux seront rivés vers les écrans à 20h ce soir, c'est l'heure à laquelle Emmanuel Macron doit se prononcer sur la crise du Covid-19. Parmi les annonces attendues, il sera question de la protection des Français avec cette crise que le pays traverse, mais il sera aussi question des élections municipales, des écoles ou encore des vacances d'été. Et puis hier, le Conseil d'État a rétabli la liberté de manifester à plus de 10 personnes, sous réserve quand même que les gestes barrières et la distanciation sociale soient bien respectés. 4 milliards d'euros, ce sont les recettes qui manqueraient à la SNCF à cause du Covid-19. C'est son PDG Jean-Pierre Farandou qui a dévoilé ces chiffres dans le JDD. La moitié reviendrait au TGV et si l'on ajoute la grève contre la réforme des retraites de la fin de l'année dernière, c'est 5 milliards d'euros qui manquent à la SNCF depuis décembre dernier. Une mère et son fils mis en examen du côté de Nîmes pour blessure involontaire pour agression d'un chien. Le pitbull qui ne portait pas de muselière a depuis été abattu. Jeudi, il a grièvement blessé une femme au visage et à la gorge. Elle se trouve dans un état grave. Par le passé, l'animal avait déjà blessé deux autres femmes de 70 et 33 ans. En bref, c'est sur un plateau complètement vide qu'Abby s'est imposé lors de The Voice hier soir. Âgé de 21 ans, le protégé de Pascal Obispo était aussi le chouchou du public et les prestations ont été enregistrées en avance, mais le résultat, lui, a bien été donné en direct.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, en ce dimanche, parlons tout d'abord des réouvertures des lieux de loisirs et de culture avec le Rambolitrin, place Jeanne d'Arc qui est ouvert, le château de Rambouillet lui aussi rouvre ses portes ce jour, et à noter que les jardins étaient déjà ouverts au public depuis quelques jours. Revenons un instant à la Bergerie Nationale qui également vous accueille, son exploitation agricole et sa ferme pédagogique vous accueillent tous les jours de la semaine pour un parcours découverte. Vous pouvez venir désormais sans réserver, mais avec un masque, c'est obligatoire à partir de 12 ans. Le circuit de visite vous emmène à découvrir les 11 chevreaux, les agneaux et les jeunes cochons qui viennent d'arriver. Vous traverserez également la basse-cour avec ses oies, ses canards et ses laprous, ainsi que les nouveau-nés du printemps. Lors de votre visite, la bergerie vous propose une immersion totale dans le monde agricole et naturel avec des éléments essentiels à redécouvrir. Et puis, il y a sur place une boutique souvenirs et restauration qui est ouverte de 14h à 18h30. La boutique vous propose de glaner des objets souvenirs, des jouets, des vêtements et les produits alimentaires de l'épicerie. Vous pouvez aussi y repartir avec des boissons et des produits de restauration. C'est l'offre snack du Mérinos Café pour ses achats. Une procédure de transmission des produits sans contact a été mise en place. Puis n'oublions surtout pas qu'il y a possibilité de faire des balades en calèche. Elles sont proposées pour des groupes de 10 personnes maximum d'une même famille sans mixer les publics. Les balades se feront uniquement sur réservation au 01 61 08 68 70 01 61 08 68 70 ou sur animation@bergerie-nationale.fr. Et pour ce dimanche, vous pouvez aussi aller à son champ, voir les animaux de l'espace Rambouillet à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Eh bien, c'est la maison Elsa Triolet-Aragon qui vous ouvre ses portes pour la visite du jardin, de la maison, mais également de ses expositions. On va en Eure-et-Loire. Près d'un mois après le déconfinement, le rendez-vous des chineurs et des brocanteurs revient dans cette capitale régionale de 8h à 18h aujourd'hui, habituellement organisée sur la place Billard, dans le centre-ville. Eh bien, celle-ci se déroule boulevard Châle. Merci d'avoir suivi ce flash, poursuite des programmes sur RVE. Dans quelques instants, on va retrouver Tribune Sport avec Philippe Carnus. Auparavant, la météo de ce dimanche, un ciel variable avec certes quelques éclaircies, mais des nuages et de possibles pluies éparses dans l'après-midi. Les températures ce matin sont aux alentours de 14 degrés. On atteindra les 22 cet après-midi.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Tribune Sport du 14 juin, après le Tribune Foot de la semaine dernière, qui avait été le dernier pour cette saison. On aura deux invités ce matin, on aura dans la deuxième partie de cette émission Frédéric Auroux, le président du tennis club de Saint-Arnoult en Yvelines, mais aussi président de l'association Omnisport de Saint-Arnoult. Et puis dans la première partie de cette émission, eh bien, on a le président du tennis club de Fargis, également membre du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Eh bien, c'est un fidèle, un habitué, c'est notre ami Jean-Michel Lespris. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pleine forme ?
En pleine forme, oui, bien sûr.
Ouais, ouais, ouais. Alors, comment vous avez vécu, Jean-Michel, vous, cette période un peu particulière que l'on a vécue dans nos pays, et encore plus pour le sport ?
Bah pour nous, au tennis club, ça a été dans un premier temps très dur, hein, puisque bon, on a dû dire à nos adhérents, à nos élèves de l'école de tennis, bah, c'est terminé pour le moment, et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre. Donc ça a été un petit peu, ce qui était difficile, c'était un peu le flou surtout, ne pas savoir quand est-ce qu'on pourrait reprendre.
Ah ouais, donc tout a été fermé dès le mois de mars, et puis bah, depuis, effectivement, on peut peut-être parier un peu sur la rentrée, sur le forum des associations.
Bah, tout a été fermé à partir du 14 mars, mais nous, au tennis, on a eu la chance d'avoir l'autorisation de reprendre dès le 11 mai, oui, dans des conditions un petit peu strictes. Il y avait le droit de jouer que l'un contre l'autre, chacun devait apporter ses balles. Enfin, il y avait des contraintes un petit peu lourdes, notamment nous, ça nous a obligés à mettre des consignes de sécurité sanitaire devant le clubhouse, devant chaque cours, de mettre en place des distributeurs de gel hydroalcoolique dans les cours, devant les cours, de venir désinfecter les poignées de porte tous les jours. C'était des contraintes assez lourdes, mais bon, ça a permis de revitaliser, de remettre en marche le club de tennis à partir du 16 mai. Et puis, à partir depuis le 2 juin, on a eu le droit également de donner des cours de tennis collectifs.
Oui.
Donc, ça permet aussi de revitaliser l'école de tennis.
Donc, c'est quand même reparti chez vous, hein, Jean-Michel.
Ah, c'est nous, c'est bien reparti. Déjà, les joueurs ont pu jouer depuis le 16 mai. À partir du 16 mai, oui, tout à fait. Et à partir du 16 mai, on avait même mis en place des cours individuels, puisqu'on avait le droit de jouer que l'un contre un. Et puis, depuis le 2 juin, on a remis en place tous les cours collectifs. Donc, là, actuellement, on tourne à plein.
Donc, chez vous, il faut dire aussi que vous avez des cours en plein air. Ça peut être aussi un peu facilité ce retour, plus que dans des endroits un peu plus fermés et confinés.
Oui, tout à fait. C'est que, bon, d'une part, nos cours ne sont pas dans un parc, puisqu'il y a un certain nombre de clubs de tennis dont les cours sont dans des parcs, et les parcs étant fermés, n'ont pas le droit de donner accès à quiconque. Et puis, on n'a toujours pas le droit d'avoir accès aux salles de sport, donc on ne peut jouer qu'en extérieur. Donc, heureusement qu'on a trois cours extérieurs et qu'il a fait beau temps à chaque fois qu'on avait des cours à donner, ce qui nous a permis d'assurer à peu près tout ce qu'on voulait faire.
Alors Jean-Michel, maintenant il va falloir faire quand même patienter jusqu'à la rentrée, parce que le plus dur pour vous, président d'association, hein, certains l'ont dit, ça a été de fidéliser vos pratiquants pendant cette interruption forcée.
Voilà, tout à fait. Alors pour déjà ne pas les laisser tomber, on essaie de les informer toutes les semaines ou tous les 15 jours, un peu d'évolution de la situation et puis de ce qu'on pouvait éventuellement envisager de faire. Et puis, dès qu'on a pu, effectivement, on leur a dit, ça y est, venez, on peut rouvrir, voilà, les conditions sont difficiles, et vous pouvez venir jouer. On a remis en place les cours de tennis dès qu'on a pu. Enfin, on a essayé de relancer la machine comme si de rien n'était, pour effectivement les fidéliser. Par contre, on va même essayer de rembourser une partie des cours qu'on n'a pas pu donner, grâce aux mesures gouvernementales qui nous ont aidés à continuer à payer les salariés, pendant les moniteurs, un salarié, pendant la période d'inactivité. Donc, je pense que grâce à tout ce qu'on a fait, les fidèles vont rester, et puis qu'on va même peut-être avoir des nouveaux.
Oui, parce qu'on va rappeler, vous êtes combien au tennis club de Fargis, au total de licenciés ?
On est entre 110 et 120 licenciés.
Ah oui, quand même, pour un petit village comme ça, même si je suppose que...
C'est bien, oui.
Hein, ça concerne les communes avoisinantes qui viennent aussi probablement vous renforcer. Il y a quand même les Essarts-le-Roi, qui est une grosse ville de sport à côté, mais il y a des petits, d'autres petits villages, comme les églises, donc, où cernait la ville, qui doivent peut-être venir aussi vous renforcer. Est-ce que certains ont réussi à trouver le moyen de s'entraîner pendant cette période d'inactivité? On sait qu'il y a eu beaucoup d'innovations, notamment dans le domaine du sport.
Bah, s'entraîner au tennis, non, s'entraîner à maintenir une activité physique en intérieur ou dans leur jardin.
Ils n'ont pas eu un mur dans leur jardin.
Un petit peu la forme, mais sinon, jouer au tennis, il n'y avait pas de possibilité. Hein.
Ouais, peut-être faire taper la balle contre un mur dans leur jardin.
Ah bah il y en a qui ont tapé la balle contre le mur de leur pavillon.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Donc, tout à fait, non, bien sûr.
De garder ses coups, de continuer à s'entretenir. Naturellement, toutes les autres manifestations prévues quand même ont été annulées. Hein. Il n'y aura pas de fête de fin d'année pour le tennis, il n'y aura pas de tournoi prévu. Hein. Tout est annulé quand même.
Voilà, alors déjà toutes les manifestations que l'on faisait avec le comité des Yvelines de tennis, hein, comme tous les championnats, les championnats jaunes, les championnats adultes, eh bien, ont été arrêtés ou ont été annulés. Mmh. Ensuite, tous les tournois qui avaient lieu dans la région également ont été annulés. Ouais. Tous les événements tels que la fête du club, les petits tournois entre le tournoi interne qu'on avait en cours, etc. Tout ça, ça a été arrêté, voire annulé. Donc effectivement, ça a donné un gros coup d'arrêt à l'activité.
Voilà, puis bon, ça reprendra tout doucement à la rentrée. Il y a quand même une épreuve qui nous est chère, les trophées RVTennis, que malheureusement, on ne pourra pas organiser, il faut dire, à la rentrée, hein, Jean-Michel. Hein. Donc ça sera année blanche pour les trophées. Hein. Voilà.
On espère à la rentrée qu'on aura le droit de reprendre à plein régime. Maintenant, c'est même pas encore sûr. Hein. Donc on a quand même annulé un certain nombre de choses. Nous aussi, nos activités, nos animations de rentrée, le tournoi RVE qui nous est cher, effectivement.
Oui.
On a dû effectivement les annuler.
Oui, et puis aussi, pour avoir une pensée aussi pour notre ami Jean-Louis Mazard, il n'y aura pas les finales sous-divines de Masters de tennis aussi, hein, parce que les tournois qualificatifs n'ont pas pu se dérouler, donc naturellement, il n'y aura pas de phase finale. Quoi.
Oui, tout à fait.
Très bien. Alors, donc, on peut quand même venir vous rejoindre au Forum des associations. Il y aura quand même un Forum des associations.
Ben aujourd'hui, au Fargis, il est prévu un Forum des associations, bien sûr, auquel on participera, pour essayer effectivement d'attirer de nouveaux joueurs et de nouveaux adhérents dans notre club.
Ça serait parti comment au niveau de la compétition et du loisir, Jean-Michel, pour le tennis sur Fargis? Parce que ça aussi, c'est le problème d'un club de tennis, c'est de pouvoir harmoniser et contenter tout le monde, c'est-à-dire se porter vers la compétition et se plus porter par le côté loisir.
Tout à fait, ça a été toujours notre souci de ne pas favoriser l'un par rapport à l'autre et de laisser toujours notamment des cours disponibles quand il y a des compétitions pour le tennis loisir. Par contre, on essaye quand même de pousser beaucoup les joueurs de loisir à faire de la compétition, parce que le tennis c'est un jeu, mais c'est un jeu d'abord de compétition, on essaie quand même de battre l'adversaire. Donc on essaye nous de faire des tournois internes où on pousse le maximum de gens à faire. En général, on arrive à avoir je dirais à peu près 60 à 70% de nos adhérents qui ont fait au moins un match en compétition, ne serait-ce qu'en tournoi interne.
Voilà, et les trophées RVE sont une belle occasion. Hein. C'est une compétition sans être une compétition officielle, mais certains franchissent le palier à travers ce tournoi.
Tout à fait, c'est ce que l'on essaye, ce qu'on essayait tous les ans de faire, c'est de faire jouer justement des gens qui n'ont pas l'habitude de la compétition, qui appréhendent même peut-être un peu la compétition. Donc tournoi RVE, parce que c'est un tournoi amical que l'on joue vraiment entre amis, même si ce sont des clubs voisins et des gens qu'on ne connaît pas forcément, ce sont des amis et ce sont donc des matchs qui sont beaucoup plus agréables, ou tout au moins que les gens appréhendent beaucoup moins. Et quand ils ont vu, ben, finalement on s'amusait en faisant un tournoi, ils ont moins de difficultés à s'inscrire en équipe et à venir après faire partie des équipes de compétition.
Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge où il manque des pratiquants et pratiquantes?
Ah oui, ça c'est il y a vraiment une catégorie incroyable, c'est entre 25 et je dirais 40 ans, on n'a pratiquement pas d'adhérents.
Ah bon?
On a des jeunes jusqu'à 20 ans, 22 ans qui restent au club, et puis après il y a les anciens qui sont là à partir de 40, 45 ans. Mais entre, on a effectivement une catégorie, il n'y a quasiment personne. Et puis, il faut dire aussi les femmes, ça a baissé. Cette année, on a réussi à mettre au tennis 4-5 mères d'enfants de l'école de tennis, mais on était tombé très très bas, on avait dû arrêter toutes les équipes qui jouaient, voire même de faire un tournoi interne, puisqu'on n'avait plus assez de compétitrices.
D'accord, donc on peut faire un petit appel, hein. Venez renforcer donc, le tennis club d'Offargis. En plus,
voilà, mesdames, venez, voilà. Venez au tennis club d'Offargis.
Mesdames, mesdemoiselles, ouais. Et puis vous l'avez dit, il y aura des tarifs préférentiels vu naturellement le fait qu'on n'ait pas pu pratiquer ce sport pendant toute cette saison 2019-2020.
Ouais, ce ne sera pas des tarifs préférentiels, on va faire des remboursements sur les cours qu'on n'a pas pu donner dans la saison 2019-2020, oui.
D'accord. Alors, c'est le sport numéro un, de par son ancienneté, le tennis sur Offargis. Il y a d'autres activités importantes. Il y a le golf aussi, qu'on connaît bien avec notre ami M. Brun. Hein.
Voilà, tout à fait. Il y a le golf. Oui. Bon, ils ont le handicap de ne pas avoir de structure sur Offargis, oui. Donc ils sont obligés de se déplacer à l'extérieur. Sinon, il y a des activités qui sont purement loisirs. Hein. Il y a du badminton, qui est pas mal pratiqué dans la salle Omnisport. Il y a également un petit peu de futsal. Qui se pratique au Offargis.
Alors, est-ce que c'est pas justement un sport qui permet à des anciens de revenir à ce que le tennis n'est toujours pas un sport de reconversion? Vous disiez qu'il manquait justement une tranche d'âge entre 25 et 40 ans. Est-ce que certains ne reviennent pas après en deuxième sport vers le tennis?
Alors, le tennis a été beaucoup un sport de reconversion ces dernières années. Maintenant, c'est plutôt le golf. On s'aperçoit que les gens, finalement, c'est vrai que le tennis, physiquement, c'est quand même assez dur. Donc, en sport de reconversion, on s'aperçoit que les personnes préfèrent plutôt se diriger vers le golf, qui est quand même un sport moins dur.
Et puis, naturellement, c'est pour tout gabarit, tout âge, il n'y a aucun problème. Vous avez des éducateurs qui sont là pour vous initier au tennis. Il n'y a pas de contrainte de gabarit, hein, Jean-Michel. Ça, on l'a vu
régulièrement. Alors, c'est ça l'avantage. Hein, on peut voir sur le circuit qu'il y a des joueurs qui font 1m70 et en face, des joueurs qui font plus de 2 mètres. Et puis, finalement, celui qui gagne, c'est pas toujours le plus grand. Moi, je crois que le tennis, c'est surtout un sport qu'on peut pratiquer d'une part partout, parce qu'on peut partout trouver des cours de tennis. Besoin d'être que deux, donc là aussi ça facilite par rapport au sport collectif. Et puis c'est un sport qu'on peut pratiquer très très tard, puisque sur Offargis on a une équipe d'une douzaine de personnes de plus de 65 ans qui jouent pratiquement tous les jours. Il y a un tableau de double et tous les jours on fait jouer des personnes qui sont à la retraite et qui gardent comme ça la forme et la santé grâce au tennis.
Oui, et puis c'est le sport qu'on peut faire en famille et qui est le sport le plus pratiqué dans notre département des Yvelines.
Tout à fait. Mais on commence à être talonné quand même par le football et je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas dépassé par le football. Là.
Comment vous expliquez ce phénomène qu'il y a eu d'une petite, j'allais dire entre guillemets, des affections pour le tennis? On connaît l'embellie des années 80, ensuite ça a été un peu moins bon pour le tennis, peut-être la concurrence du golf justement.
Je crois que le premier point, c'est l'absence de joueurs de haut niveau français qui font parler d'eux sur le circuit. Hein. Ça, depuis les Monfils Tsonga, il y a eu quelques jeunes qui ont un peu apparu sur le circuit, mais bon, Lucas Pouille notamment. Et il reste vraiment très très en deçà. Donc, si le tennis français ne fait pas parler de lui au niveau international, déjà ça. Ça limite son impact sur l'envie des jeunes de faire ce sport-là. Hein. Ça, c'est le premier point. Et puis, bon, le deuxième handicap du tennis, c'est que c'est un sport qui est très, très difficile à apprendre. C'est très, très long, c'est assez ingrat. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui veulent tout de suite réussir. Hein. Ils veulent tout de suite réussir à faire de beaucoup, à s'amuser. Et le tennis, pour ça, c'est un petit peu ingrat parce que ça demande du temps.
Oui, il manque une icône comme Yannick Noah ou comme Marie Pierce pour les femmes, parce que chez les femmes, vous en avez parlé, il y a une désaffection aussi pour le tennis. Hein.
Oui, tout à fait. Ça, c'est... Enfin, nous, au Offargis, on ne souffre pas trop de la désaffection, puisque depuis plusieurs années, on arrive vraiment à se maintenir. Et je pense que c'est grâce à la vitalité qu'il y a dans le club, grâce aux bénévoles qui assurent beaucoup d'animation, qui bousculent beaucoup les gens pour qu'ils aillent jouer. Et sinon, c'est vrai que la désaffection se ferait aussi sentir chez nous.
Bon, Jean-Michel, on marque une première pause et puis on revient dans la deuxième partie où on ira accentuer un peu plus également sur votre deuxième fonction, celle donc de chargé de la communication du comité départemental olympique et sportif des Yvelines.
Tout à fait, merci.
Artisans, peintres, décorateurs, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
RVE 103.7.
Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. M'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là, va comme sec est mon cœur, va comme sec sans mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras.
Le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième partie de notre entretien avec Jean-Michel Lesprit, le président du tennis club de Fargis, mais aussi le responsable de la communication du comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Jean-Michel, bah, je suppose que là aussi, le sport dans les Yvelines a vécu d'une façon générale, tout sport confondu, une période particulière.
Ah oui, oui, une période très particulière, je dirais même catastrophique.
Oui, 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 ça a été catastrophique, hein. Il n'y a eu aucune manifestation, tout a été annulé. Comment vous l'avez géré, vous, avec le président Redon?
Ben, d'une part, bon, on a eu déjà un certain nombre de salariés, de stagiaires, etc. Donc déjà, ben, toutes ces personnes-là sont obligées de rester en télétravail. Oui. De chez eux, et puis ensuite ben, on a dû annuler notre participation, enfin les événements que nous avions prévus d'une part, et puis ben, tous ceux auxquels on avait prévu de participer se sont petit à petit annulés, donc là aussi on a eu une très très grosse défection au niveau de l'activité. Par contre, il y a une activité qu'on a heureusement pu maintenir, c'est l'activité que l'on mène sur le sport santé, où on a des ateliers bien-être dans des EHPAD, dans des maisons de santé, et là, bon, on a pu continuer grâce à YouTube, enfin, moyen moderne de communication, en transmettant des vidéos, soit en faisant des visioconférences sur Zoom. Donc là, c'est la seule domaine d'activité qu'on a pu maintenir, c'est le sport santé.
Et oui, et pour cause, hein, vous avez aussi peut-être accompagné quelques initiatives, hein, parce qu'on l'a dit pendant nos émissions spéciales confinement, que le sport a été d'abord très solidaire et puis a fait preuve de beaucoup d'initiatives. Est-ce que vous en avez accompagné certaines, Jean-Michel?
Alors, on a accompagné effectivement certaines initiatives, ouais. Puisqu'il y a des comités qui nous ont transmis des vidéos d'activités chez soi ou d'activités qu'ils pouvaient pratiquer dans leur jardin ou dans les 1 kilomètre acceptés. Donc, nous, on a retransféré à nos différents auditeurs ou tous les gens qui lisent nos publications ou notre site internet, on a transféré tout ce qui pouvait les aider à continuer chez eux ou très près de chez eux à pratiquer une activité physique.
Donc là, naturellement, c'est toujours, je dirais, en télétravail, toujours à distance. Le gros de l'activité au comité, ça va reprendre début septembre.
On l'espère, parce que bon, d'une part, on a une grosse activité en tant qu'éco-responsable sur un certain nombre d'événements de trail, notamment de course à pied. Hein. On était quand même les éco-acteurs sur l'éco-trail de Paris, qui est un très très gros morceau et qui a été décalé pour le moment au début octobre. Donc là, bon, on espère que pouvoir reprendre cette activité. Les 10 km de Paris, l'équipe pour lesquelles effectivement on était également les éco-acteurs qui ont été annulés en juin. Et là, je ne pense pas que ce soit repris à la rentrée. Et puis, on a un autre gros pôle d'activité, c'est vis-à-vis des jeunes. Hein, c'est l'opération Horizon 2024, où on va dans les collèges et où on passe toutes les classes une à une, et on passe également les classes des écoles élémentaires du voisinage pour leur faire la promotion des Jeux Olympiques, et notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc on leur explique ce que c'est que les Jeux Olympiques, comment ça se passe, comment ça se passera en 2024, etc. Ça, c'est une très très grosse opération qu'on a complètement arrêtée, et il faut qu'on reprenne contact avec l'éducation nationale et les collèges pour remettre ça en place à la rentrée. Et c'est pas simple du tout, puisqu'ils ont beaucoup beaucoup d'autres soucis pour la rentrée que effectivement l'activité qu'on leur propose.
Et puis votre grande soirée donc des éclats olympiques, naturellement reportée. Je crois qu'on récompensera ceux de 2020 et 2021 l'année prochaine au mois de mars. Hein.
Voilà, alors bon, effectivement, on a été obligé d'annuler notre soirée olympique où on récompense effectivement les meilleurs sportifs, dirigeants, entraîneurs du département. On espérait pouvoir la reporter sur la fin de l'année, malheureusement il n'y a pas de salle de disponible, et on ne sait pas trop comment on pourra effectivement rassembler plus de 100 personnes dans une salle avant la fin de l'année. Par contre, on s'est dit qu'effectivement, sur l'année 2019-2020, sur la saison 2019-2020, il n'y aura pas beaucoup de compétitions, donc pas beaucoup de joueurs à récompenser. Donc on s'est dit que finalement, dans la soirée 2021, on récompensera à la fois les athlètes de la saison 2019-2020 et 2020-2021.
Oui, parce que finalement, ça aura fait une année combien ? 5 mois, grand maximum, un premier trimestre, et puis peut-être une fin d'année ?
Disons cinq mois, parce que le quatrième trimestre 2019, et puis un trimestre en 2020, et il y aura peut-être, on peut l'espérer, un trimestre en fin d'année, là. Hein.
Oui. En tout cas, Jean-Michel, vous parliez des Olympiques en 2024, ça ne va pas impacter, même s'il y aura du retard dans les travaux pour 2024, ça ne va pas impacter quand même les différentes actions qui vont être faites pour les Jeux de 2024. Et puis, le report des Jeux de 2020 sur 2021, il s'imposait tout naturellement.
Voilà, tout à fait. Alors, pour le moment, effectivement, les Jeux Olympiques de 2024, il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont maintenus largement. Par contre, les Jeux Olympiques de 2021, ça va dépendre un petit peu de la disparition complète de la pandémie, hein, et de savoir si on pourrait rassembler autant de personnes sur un seul site à Tokyo en 2021.
Et puis, il faut rappeler qu'il y a quand même des sportifs qui n'avaient pas pu faire leur qualification. Donc, le report à 2021 s'imposait. Hein. Il y avait des sports où on ne savait pas encore les différents qualifiés puis les différents représentants des différentes délégations.
Alors, il y a beaucoup de sports où les qualifications, les qualifiés n'étaient pas encore connus, mais surtout, les athlètes avaient quand même perdu un petit peu de leur condition physique. Il fallait absolument qu'ils retrouvent la condition physique. Et ça, à ce niveau-là, ça met très longtemps. Et à mon avis, c'était assez impossible avant la fin de l'année de réussir ça. Hein. Voilà, je suis désolé.
Alors, vous vouliez, Jean-Michel, donc vous parliez de Versailles, vous vouliez quand même rendre hommage aussi à quelqu'un qu'on a bien connu, c'est Jean-Marc Fresnel, on en a parlé il y a quelques semaines hein, dans un tribune sport avec Jean-Loup Perrault, rendre hommage à celui qui a beaucoup servi le sport sur Versailles.
Oui, ben on a fait un petit article d'ailleurs dans notre lettre électronique, on a fait un flash électronique spécial pour rendre hommage à Jean-Marc Fresnel qui nous aidait toujours à chaque fois dès qu'il y avait une animation sur Versailles, il était toujours avec nous. Dès qu'on voulait monter un colloque, on parlait du sport à Versailles, il était toujours là. Et vraiment, pour nous, c'est une disparition assez tragique que celle de Jean-Marc Fresnel.
Oui, on va rappeler qu'il était l'organisateur du Paris-Versailles. Hein, il avait beaucoup œuvré pour que donc Versailles ait les Jeux Olympiques en 2021, ce qui sera le cas puisqu'il y aura les différentes compétitions de sport équestre et probablement de pentathlon. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait toujours servi la cause et qui était toujours à vos côtés. Hein, et qu'on a vu au micro de Tribu Sport il y a quelques années.
Exactement, il était à nos côtés et puis il voulait avoir un rôle actif. Bien effectivement, sûr. Dans les Yvelines et dans Versailles pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il ne faut pas oublier non plus qu'il était président effectivement de l'association du Paris-Versailles et qu'il présidait l'organisation tous les ans de cette course mythique qu'est le Paris-Versailles.
Oui, que vous avez couru, hein, Jean-Michel, que vous avez couru.
J'en ai couru, effectivement, qu'à tout ça, qu'à édition, effectivement.
Ouais, ouais. Tiens, un petit mot, en tant que président du tennis club de Fargis, comment vous avez vécu ce mois de juin? Parce que ce mois de juin, fin mai, début juin, c'est le mois où on suit Roland-Garros, on se prépare sur Roland-Garros. Comment vous l'avez passé? Parce que ça a dû faire drôle, l'énorme vide.
Bah, ça a quand même été comblé par tout le travail qu'il a fallu qu'on fasse pour relancer le club, en fait. Pour relancer le club, pour faire revenir les gens, pour organiser. Au départ, on est obligé de faire des cours individuels pour les élèves, donc réorganiser tout ça, remettre en place les cours collectifs, les contraintes sanitaires. On a tellement été occupé avec tout ça qu'effectivement, on a un petit peu oublié à côté l'absence, effectivement, de Roland-Garros, Wimbledon aussi, enfin bon, du tennis au niveau international.
Bon, bah, vous irez fin septembre, début octobre, ça sera drôle. Ça sera l'automne,
j'espère.
Il y aura un nouveau toit couvert.
Ah bah oui, bien sûr, oui, tous les travaux ont repris, il y aura le nouveau toit, bien sûr. Heureusement, parce que malheureusement, à cette période de l'année, on peut craindre beaucoup plus d'intempéries qu'au mois de mai-juin, et bon, il faut quand même que les matchs se déroulent.
Oui, alors, vous, l'homme du tennis, mais vous, l'homme aussi du comité olympique, comment vous vivez un peu la bataille qui se passe pour la présidence de la Fédé de tennis? Vous avez choisi votre camp, Jean-Michel?
J'ai choisi mon camp, mais bon, je ne dévoilerai pas.
Bien sûr.
Ouais. Oui, j'ai choisi mon camp. Bah oui, je crois qu'il faut, bon, peut-être que ça évolue un petit peu les mentalités. Et puis, moi, je trouve, en tant que président du club de tennis, qu'effectivement, les petits clubs dans les régions rurales sont quand même mal pris en compte, mal considérés. Et je crois que c'est au niveau de la fédération, comme au niveau de la Ligue des Yvelines, des Ligues Île-de-France et le comité des Yvelines, les petits clubs ruraux comme celui d'Aufargis sont mal compris, je dirais.
D'accord. Ah, on voit à peu près vers qui votre cœur balance.
Hein.
On
ne le dira pas. Voilà.
Ah, on ne le dira pas. Bon, et sur un plan plus général, bon, on parle effectivement. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une approche différente à travers le sport dans ce qui va arriver sur la nouvelle vie, de ce qu'on appelle la nouvelle vie qui arrive après au mois de septembre?
Enfin bon, on parle de nouvelle vie, mais bon, je crois que bon, ce sera quand même pas trop différent de celle d'aujourd'hui. Moi, je vois pas trop comment on va pouvoir bon pratiquer tous les sports qu'on imagine autrement. Faudra bien que les spectateurs soient là. Alors peut-être qu'au niveau des spectateurs, il y aura des aménagements au niveau de la façon peut-être de remettre les récompenses, etc. Il y aura des choses un petit peu nouvelles qui éviteront trop les contacts. Les embrassades et tout ça, mais à part ça, je crois que la pratique du sport, elle va quand même rester la même.
Oui, vous ne pensez pas que justement, on a dit que ça avait suscité certaines vocations pendant la période de confinement, vous ne pensez pas que ça va donner l'idée de continuer à faire du sport?
Je pense que la vie quotidienne va reprendre son cours.
Ouais,
c'est vrai que bon, les gens en télétravail ont peut-être plus de facilité de faire un petit peu de sport chez eux, etc. Et ça, c'est sûr, les gens vont gagner du temps en transport grâce au télétravail. Et ça va certainement faciliter un petit peu la pratique sportive. Par contre, la pratique en elle-même, elle va pas changer, elle va rester la même. Donc, je crois que les grosses évolutions, on n'en verra pas. Pas de sitôt, en tout cas.
Et pour finir, bah, on peut craindre aussi que, bon, il y aura fatalement une petite récession économique, il va y avoir des coupes sombres à faire budgétairement. On peut craindre que certains aussi sortirent dans le domaine du sport et n'investissent plus autant que par le passé à accompagner des manifestations sportives.
Alors ça, c'est le gros, bien sûr, ça va être le gros souci du sport, ça va être le financement. À tous les niveaux, que ce soit au niveau national, avec les grosses équipes en foot, en rugby, etc. qu'au niveau départemental même, où c'est vrai que le sponsoring va baisser terriblement, les subventions également, et là ça va être très 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 dur. Hein. Je crains malheureusement que beaucoup de clubs ne puissent pas survivre effectivement à la crise. Hein. Ça,
ah oui, c'est gros risque. Certains clubs peuvent disparaître. Quoi. Certains clubs associatifs de sport peuvent disparaître.
Ah, personnellement, je le crains, oui, tout à fait. Sans les subventions, si véritablement bon, les subventions baissent, et puis les aides de tous côtés, certains clubs risquent de disparaître. C'est un peu ce qu'on craint. Hein.
Bien. Très bien, ben Jean-Michel, merci en tout cas. Merci d'avoir été notre premier invité. Et puis on
ben, merci à vous.
Retrouver un deuxième invité que vous devez connaître, c'est Frédéric Auroux,
donc ah oui, je connais bien, oui.
sur Saint-Arnoux, et puis également président de la section Omnisport. On le retrouve d'ici quelques
minutes. Je le salue.
Voilà, et bien ok, après une deuxième pause.
Merci, au revoir. Salut.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ce sont près de 15 000 personnes qui se sont retrouvées dans les rues de Paris hier. Tous ont répondu à l'appel du comité Adama pour dénoncer les violences policières. Quelques heurts ont éclaté à Paris en fin de journée, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour disperser tout le monde. Il y a eu aussi des rassemblements à Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore du côté de Bordeaux. La préfecture de police de Paris a aussi saisi la justice après des insultes antisémites proférées par des manifestants en direction de militants de génération identitaire. Ça s'est passé à Paris, le collectif avait déployé une banderole évoquant le racisme anti-blanc sur le toit d'un immeuble juste devant les manifestants. Tous les yeux seront rivés vers les écrans à 20h ce soir. C'est l'heure à laquelle Emmanuel Macron doit se prononcer sur la crise du Covid-19. Parmi les annonces attendues, il sera question de la protection des Français avec cette crise que le pays traverse. Mais il sera aussi question des élections municipales, des écoles ou encore des vacances d'été. Et puis hier, le Conseil d'État a rétabli la liberté de manifester à plus de 10 personnes, sous réserve quand même que les gestes barrières et la distanciation sociale soient bien respectés. 4 milliards d'euros, ce sont les recettes qui manqueraient à la SNCF à cause du Covid-19. C'est son PDG Jean-Pierre Farandou qui a dévoilé ces chiffres dans le JDD. La moitié reviendrait au TGV et si l'on ajoute la grève contre la réforme des retraites de la fin de l'année dernière, c'est 5 milliards d'euros qui manquent à la SNCF depuis décembre dernier. Une mère et son fils mis en examen du côté de Nîmes pour blessure involontaire pour agression d'un chien. Le pitbull qui ne portait pas de muselière a depuis été abattu. Jeudi, il a grièvement blessé une femme au visage et à la gorge. Elle se trouve dans un état grave. Par le passé, l'animal avait déjà blessé deux autres femmes de 70 et 33 ans. En bref, c'est sur un plateau complètement vide qu'Abby s'est imposé lors de The Voice hier soir. Âgé de 21 ans, le protégé de Pascal Obispo était aussi le chouchou du public et les prestations ont été enregistrées en avance, mais le résultat, lui, a bien été donné en direct.
La baci, oggi saprei perché l'amore, con ogni tanto mille baci, mille carezze allora allora, con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno splendido perché, ogni secondo faccio te, niente bugie meravigliose, frasi di amore appassionate. Solo baci che do a te, con 24.000 baci, felici corrono le ore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te, con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia. Ogni secondo è tutto mio.
Retrouvez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, alors deuxième invité de cette émission, après Jean-Michel Lesprit, du Tennis Club de Fargis, c'est bien un autre tennisman, Frédéric Auroux, le président du Tennis Club de Saint-Arnoult. Frédéric, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors comment ça va pour le sport à Saint-Arnoult, en cette période un peu particulière?
Ouais, c'est une période un peu particulière, mais qui en fait a permis dès la réouverture des installations à des gens d'apprécier la juste valeur le sport et le tennis à Saint-Arnoult. Après 2 mois de privation, c'était l'explosion quant à la réservation des cours et c'est plutôt génial.
Ouais. Alors naturellement, je suppose, comme nous le disait aussi pour Fargis Jean-Michel Lesprit, avec des mesures sanitaires particulières, c'est une de vos obligations.
Oui, c'est une de nos obligations. C'est le protocole qui a été mis en place très rapidement par la FFT et aidé du comité des Yvelines et avec une excellente relation avec le ministère des Sports, ce qui a permis de garantir aux autorités le respect des sanitaires pour la reprise de la pratique du tennis.
En tout cas, vous avez senti énormément de frénésie pour cette reprise.
Oui, c'est 2 mois de privation. À Saint-Arnoult, on a la chance d'avoir des cours couverts. Et donc, oui. Les gens, depuis de nombreuses années, ont pris l'habitude d'aller sous les cours couverts, même quand il faisait beau. Moi qui pratique ce sport depuis une quarantaine d'années, je conçois le tennis en extérieur. Et là, en fait, les gens, par obligation, se sont jetés sur la réservation des cours en extérieur et on a pu s'apercevoir suite à des témoignages que finalement ils appréciaient de jouer en extérieur, donc c'est génial et les cours n'ont jamais été aussi occupés depuis bien longtemps.
Eh ben tant mieux. Mais ceci dit, bon, vous avez toutes vos manifestations prévues en cette fin d'année sont annulées, comme partout.
Oui, là on n'a pas officiellement, il y aura une communication ce soir à partir de 6-7 heures pour la reprise de la compétition, mais on a dû annuler nos stages compétition du mois d'avril, les petits tournois qui étaient organisés, qu'on avait prévus, aujourd'hui tout est stoppé, y compris à Saint-Arnoult depuis une quinzaine d'années, on organise une tournée de compétition sur la région de la presqu'île guérandaise, la Baule, Pornichet, etc. C'est des tournois très très prisés. Et là, on a dû stopper. On prévoit de ne pas partir. Ce projet était totalement stoppé. Donc, il y a eu aussi un manque à gagner. Hein, les stages en moins. Il y a des animations. Les clubs, je pense que les clubs yvelinois, comme tous les autres clubs, vont souffrir un petit peu économiquement.
Ouais, c'était ce qu'il disait, malheureusement. Est-ce que vous allez faire aussi des réductions au niveau des prix, des tarifs pour la prochaine saison qui arrive, comme beaucoup de clubs veulent le faire?
Oui, absolument. Il y a d'ailleurs des réunions et concertations de présidents. Grâce au comité des Yvelines et son président Francis Evillard, qui ont permis au président de club d'échanger sur les pratiques et Saint-Arnoult, il est convenu que à partir d'un prorata temporis surtout des cours de tennis qui n'ont pas été pu être effectués, là on va essayer de rattraper un peu. Nous il nous restait 11 sessions à faire, on va en passer 4 ou 5 et en rajouter 2 l'année prochaine, donc il est clair qu'on va faire un geste commercial. Ça me gêne de parler de gestes commerciaux, en tous les cas d'utiliser le terme commercial dans le milieu du sport, et surtout à notre niveau, mais c'est ça, on va faire un geste commercial aux gens qui vont réadhérer uniquement. C'est aussi pour inciter un petit peu les gens à revenir l'année prochaine. Et ça, c'est une pratique que globalement vont avoir tous les clubs de tennis.
Bien sûr. Bon, vous êtes un des sports importants, je crois que c'est un des sports les plus pratiqués sur Saint-Arnoult, le tennis. Vous êtes combien en licencié, Frédéric?
On est 200 30 licenciés, 240 adhérents, parce qu'il y a des gens qui viennent pratiquer le tennis à Saint-Arnoult et qui sont licenciés dans un autre club.
D'accord. Et toute tranche d'âge confondue, il n'y a pas une tranche d'âge où il manque un peu de monde ?
Ah, il y a une tranche d'âge, en effet, qui manque un peu de monde. C'est la tranche d'âge 15-25, mais c'est la tranche d'âge, en effet, où nous, à Saint-Arnoult, on n'a pas de lycée, donc ils commencent à s'exporter ailleurs, Rambouillet, Dourdan, Limours, donc avec des créneaux horaires moins disponibles pour eux. Et puis, il y a ceux qui, ensuite, après le lycée, quittent la région et vont faire leurs études sur Paris et autres. Et là, c'est vrai que c'est des périodes où les moins passionnés, on les perd. Par contre, c'est sûr que tous les passionnés, les mordus qui ont vraiment adhéré à la compétition et autres, eux, même s'ils pratiquent moins, ils restent pratiquants. Ils restent pratiquants dans nos clubs.
Et puis l'avantage que vous avez, c'est peut-être aussi, vous allez puiser dans les villages avoisinants, hein, Bullion, Bonnel, Rochefort-en-Yvelines, tout ça, c'est Clairefontaine, tout ça, c'est à côté de Saint-Arnoult, donc ça vous attire tout le monde.
Oui. Bon, après, il y a des petits clubs, on est à Clairefontaine, il y a un club, mon ami Olivier, ils ont une centaine d'adhérents. Bon, après, voilà, c'est clair que nous, on a deux cours couverts, donc c'est un avantage par rapport à tous ces clubs. Et puis, on a fait l'effort depuis deux ans, je ne sais plus, d'avoir deux diplômés d'État, dont un DES, Christophe Kinier, qui est un employé à plein temps. C'est des gens qu'on emploie 35 heures par semaine et 52 semaines dans l'année. Quoi. Donc ça, c'est aussi un avantage. Bon, après, c'est un gros effort financier que le club a fait pour pouvoir employer deux DE. Mais ça permet beaucoup d'animation, ça permet beaucoup de disponibilité pour les adhérents. C'est vital pour le fonctionnement du club.
Et puis naturellement, tout reprendra, on peut le penser, fin août, début septembre, à travers, là aussi comme partout.
Oui, on l'espère. En tous les cas, moi j'ai les garçons étaient en chômage partiel jusqu'à la semaine passée. Oui. Avec les autorisations que l'on a eues, on a repris les cours collectifs à partir de cette semaine et on espère bien, on espère bien que les prochaines communications gouvernementales nous permettront de réouvrir les cours intérieurs et on espère repartir à fond. On va être plus belle pour la rentrée, mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore comment ça va s'organiser, mais à un moment il faut sortir de ce confinement et avancer.
Comment vous... Oui. Alors, même question que nos premiers invités, donc notre ami Jean-Michel Esprit, comment vous avez vécu ce mois de juin sans Roland-Garros ? T'as pas eu un petit manque ?
Oui, moi qui suis totalement fondu du sujet, c'est un gros manque. En plus, mes bureaux ne sont pas comme Roland-Garros. Je suis à 300-400 mètres de Roland. Donc, c'est vrai que c'est une période où je vis un petit peu intensément Roland. Tout le monde ne le sait pas, mais de temps en temps, je vais faire un petit tour.
Ah oui, c'est bien. Donc, on ne voit pas les télés, ça va.
Oui, il faut faire attention à ça parce que ça peut être ennuyeux.
Bon, ça sera fin septembre, début octobre. Finalement, ça changera pas grand chose.
Pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas ? Il y aura le temps.
En espérant qu'il y ait une belle arrière-saison, parce que c'est vrai que, encore que Roland, fin mai, début juin, on s'aperçoit ces dernières années qu'il y a eu pas mal d'eau. Alors peut-être que cette année, Roland se passera sous le soleil. Après, on ne sait pas non plus dans quelles conditions, avec des spectateurs ou sans spectateurs. C'est la grande interrogation.
Et ce qui se passe actuellement à la tête de la Fédération française de tennis, Jean-Michel Lesprit disait que pour lui, les clubs amateurs n'étaient pas suffisamment aidés. Vous avez cette même opinion ?
C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on attend par là ? Je veux dire, aujourd'hui, Philippe, on est dans une ère où on attend de l'assistance de partout et tout le monde. Oui, peut-être, mais déjà, c'est au club de se prendre en charge, d'être hyper dynamique. Après, en effet, on a des problèmes des problèmes structurels. Il y a nos installations qui sont vieillissantes un petit peu partout dans les clubs. Ces installations, aujourd'hui, un court de tennis en résine, c'est 50 000 euros qu'il faut mettre sur la table. C'est beaucoup d'investissements. Les mairies ont de moins en moins de dotations gouvernementales, donc moins en moins de fonds disponibles pour le sport, parce que il faut des fonds pour faire fonctionner la commune, et tout le monde réclame tout, et on est dans l'instantané, hein. Aujourd'hui on commande son petit déjeuner sur internet, 10 minutes après il y a ta porte, il y a le petit déjeuner qui est servi sur ta table. Donc aujourd'hui tout le monde veut tout. C'est compliqué, et l'aspect budgétaire, en effet, faut pas l'oublier. Alors, est-ce que la fédération devrait travailler différemment, peut-être aider ses clubs, mais si elle doit aider ses clubs, à mon avis, c'est de refaire des plans, je sais plus comment on appelait ça, quand Philippe Châtrier, président illustre de la Fédération française au début des années 70 et 80, avait lancé le plan tennis. Peut-être qu'il faut lancer un plan tennis et puis veiller à ce qu'il y ait des bonnes installations, parce que, en effet, d'excellentes installations ne pourront faire attirer de nouvelles personnes dans les clubs, quoi. Parce que c'est vrai que quand il y a aujourd'hui les gros clubs qui ont des belles installations, les petits clubs, c'est difficile, hein. Enfin, moi, c'est des politiques sportives dans les communes, mais je rappelle que c'est pas évident non plus pour les communes de mettre 300 000 euros sur la table pour faire 6 cours de tennis. Et on peine tous pour, en effet, financer la réfection de nos installations. Peut-être un peu plus de considération de la Fédé, mais bon, moi je pense qu'il y a eu des progrès faits. Il faut laisser un petit peu travailler les gens. Maintenant, on a tous pris l'habitude de dire ça va pas, donc on fait un rase et on recommence tout. Et à chaque fois, il y a une nouvelle tête qui arrive, et la nouvelle tête, il peut pas révolutionner tout du jour au lendemain. Il faut laisser travailler les gens sur la durée. Moi, je suis pas pour le fait de couper la tête systématiquement aux gens, et laissons-les travailler, surveillons-les et voyons comment ça avance, quoi.
Alors, justement, vous êtes le président du tennis sur Saint-Arnoux, vous êtes aussi le président de l'Omnisport d'une façon générale. On va rappeler combien de sections sportives sur Saint-Arnoux ?
C'est 17 sections 17. Sportives.
Hein. Avec des sports qu'on connaît bien, qui sont venus à ce micro, hein, sont sortis.
Il y a le foot qui est sorti il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je crois. C'est juste avant que je sois nommé président. Et des désaccords internes, je pense que si, avec une autre approche, j'ai la présomption de dire aujourd'hui que le foot serait toujours au sein du SSA si j'avais été président à cette époque-là, parce que un peu de compromis, un peu d'échange, de discussion, et généralement on trouve toujours des solutions.
Alors, le foot qui recevra d'ailleurs l'équipe du Variété Club de France le 6 décembre prochain. Ça sera dans le week-end du Téléthon, Club de foot de Saint-Arnoux. Alors, comment ça serait parti pour les autres associations sportives d'une façon générale ?
Eh bien, c'est de la même façon. On a stoppé les activités dès le 13 mars. Le personnel, parce qu'il y a 19 salariés à l'UCSA, tout le personnel a été mis en chômage partiel, puisqu'on n'a pas pu, le maire a fait fermer toutes les installations. Ça a été plus de sport. Aujourd'hui, avec la réouverture, suite à un excellent dialogue avec la municipalité, on a réouvert l'accès aux installations e-sport que tu connais, hein. T'es déjà venu plusieurs fois sur site, Philippe. Il y a des sections qui ont commencé un petit peu à refonctionner avec des activités extérieures. Je pense au karaté, l'athlé par petits groupes. on a veillé à ce que toutes les sections respectent les consignes du ministère des Sports et ça se passe plutôt bien. Alors bien sûr, tous les sports collectifs aujourd'hui n'ont pas repris. Et c'est le basket, le hand, le ping, la salle n'est pas rouverte. Hein. Aujourd'hui, toutes les salles ne sont pas rouvertes. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas pratiquer encore à ce jour leur sport.
Voilà, ouais, bon, comme beaucoup, il faudra tabler sur la rentrée, hein, d'une façon générale.
Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu à se battre avec la municipalité, parce que j'ai des collègues d'autres municipalités où les maires restent totalement obtus et tout est fermé. Alors ils veulent peut-être pas prendre de risques. Enfin, je sais pas. C'est leur décision, mais à Saint-Arnoult, j'ai pas eu à beaucoup ferrailler avec le maire pour réouvrir l'accès aux sportifs.
Oui, il n'a pas oublié qu'il avait été président de l'Union sportive de Saint-Arnoult en tout sport, ça c'est bien.
Oui, il a pas oublié, il a quand même, comme tu le précisais, il s'est occupé du sport pendant quelques années, il n'a pas oublié. Ouais. Bon, après, j'aurais su lui mettre la pression, hein, parce qu'il y a un deuxième tour d'élection municipale, donc...
Voilà. Bon, Frédéric, la crainte aussi, c'est que certains partenaires se retirent des différentes manifestations sportives et qu'on ait la disparition peut-être d'épreuves dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Dans les prochains mois, oui. Ouais. Dans les prochaines années, bon, parce que je suis quelqu'un de
très optimiste. Des subventions qui peuvent baisser aussi, d'une fois. Ouais. Des subventions qui peuvent baisser aussi, peut-être.
Bah, allez. Oui, ça aussi, ça peut arriver. Hein. Je pense que la déflagration économique, on va la voir là, maintenant, elle va arriver. Elle a commencé déjà à toucher des secteurs économiques. Donc il est clair qu'il y aura peut-être des conséquences. En tous les cas, les sections pour des manifestations faisaient toujours appel à des commerçants pendant cette période ont souffert. Donc en effet, on est peut-être des petites dotations, des aides financières qui vont disparaître. Après, les dotations émanant du département, de la région et des fédérations, elles ont déjà diminué d'année en année. Je les vois pas augmenter.
En tout cas, sur Saint-Arnoult, on est très solidaires. Hein. Toutes les associations sportives de Saint-Arnoult marchent souvent main dans la main et même quand on organise la grande journée du sport, tout le monde est là, tout le monde est solidaire. Et ça, c'est important.
Tout le monde est important. Tout le monde est présent et c'est hyper important.
Très bien. Frédéric, merci en tout cas d'avoir été notre invité. Et puis à très bientôt. Hein, pour.
Ouais, je t'en remercie aussi. Et puis à très très bientôt.
Voilà, merci.
À très bientôt.
Une émission donc qu'on pourra naturellement réécouter en podcast, hein, comme toutes celles de la saison 2019-2020. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité pour ce dimanche. Et puis, on vous laisse maintenant avec la suite des programmes d'Hervé. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bon dimanche à tous et à tous.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. RVE 103.7.
point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Ce sont près de 15 000 personnes qui se sont retrouvées dans les rues de Paris hier. Tous ont répondu à l'appel du comité Adama pour dénoncer les violences policières. Quelques heurts ont éclaté à Paris en fin de journée, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour disperser tout le monde. Il y a eu aussi des rassemblements à Marseille, à Lyon, à Nantes ou encore du côté de Bordeaux. La préfecture de police de Paris a aussi saisi la justice après des insultes antisémites proférées par des manifestants en direction de militants de Génération Identitaire. Ça s'est passé à Paris, le collectif avait déployé une banderole évoquant le racisme anti-blanc sur le toit d'un immeuble juste devant les manifestants. Tous les yeux seront rivés vers les écrans à 20h ce soir, c'est l'heure à laquelle Emmanuel Macron doit se prononcer.